Hello à toutes et tous, et bienvenue dans une micro-série d'épisodes hors les murs du Tourbillon, le podcast d'une jeunesse qui se lève. Avec Elio, acolyte et réalisateur technique de toutes mes envies, nous avons testé un nouveau format, une nouvelle manière de tourbillonner. Nous avons pris nos micros, nos idées et nos points d'interrogation pour s'installer au Carnaval Solidaire, festival étudiant, culturel et engagé sur le campus de la Doua. Un grand chapiteau bleu, des guirlandes de fanions, des tentes colorées garnies de bonnes choses, pour nourrir toute la foule venue sourire, respirer et vivre un peu au milieu de cet espace de liberté. Nous vous proposons ici de donner vie au Carnillon, deux tables rondes avec des bénévoles, militants et militantes pour penser de nouveaux possibles autour de la joie, de l'art, de l'engagement et, comme toujours, de l'amitié. Alors profitez de ces deux épisodes en plein dans l'ambiance, imbibés des bruits de répétition de concerts et des voix rocailleuses des courtes nuits, pour penser avec nous à un monde plus inclusif et plus lumineux. Dans ce deuxième volet, durant la dernière après-midi du festival, nous accueillons Nord, Capucine et Pistache, les pieds dans l'herbe et les premiers rayons de soleil printanier dans les yeux. La fatigue accumulée par la fête et le bénévolat offre ici une réflexion plus planante pour penser la culture militante et ce qui nous anime.
C'est quand? Eh bah, ben trop cool! Alors, bienvenue à toutes et tous, on est samedi, il est 16h, il fait extrêmement beau sur la pelouse des humanités, sur le campus de la Doua. On se retrouve pour cette deuxième table ronde du Carnillon. On vient de trouver le nom cet après-midi, le mix de Carna et de Tourbillon, et on est entouré de trois bénévoles qui vont, avec qui on va échanger un peu pendant une grosse demi-heure. Est-ce que vous pouvez chacun et chacune vous présenter?
Hello. Moi c'est Nord, comme le Nord, et mon pronom c'est elle, avec les accords féminins. Du coup je suis étudiante, j'ai 23 ans, et j'ai... Du coup, pendant toutes mes années étudiantes, j'ai découvert un peu l'engagement militant qui a pas mal évolué. Et du coup, j'ai fait surtout des assos et des collectifs étudiants, un peu pas étudiants, mais principalement étudiants. Et voilà, merci de nous avoir invités.
Moi, c'est Pistache, donc j'ai 32 ans. Je suis passé par l'INSA aussi et le CARNA quand j'étais jeune et étudiant. Et en fait, j'ai assez vite bifurqué et j'ai un peu bossé en tant qu'ingénieur en sortant de l'école. Mais assez vite, je me suis formé à l'autoconstruction, notamment de systèmes de production d'énergie. Et j'ai monté une asso en 2019 qui s'appelle l'Atelier du Zéphyr et où on propose des formations sur plusieurs jours pour fabriquer un poêle à bois, un système pour cuisiner au feu de bois, une éolienne... Et voilà, l'ambition c'était de proposer des systèmes qu'on peut fabriquer soi-même pour produire son énergie. Et voilà, c'est un beau projet que je suis depuis pas mal d'années du coup, et qui est aussi du coup aujourd'hui mon gagne-pain quoi. Voilà.
Et à côté, toi tu fais plein d'autres engagements culturels et des festivals aussi.
Ouais. Ben en fait, je me suis retrouvé à faire bénévole sur pas mal de festivals, notamment aussi en cuisine. On ramène des systèmes qu'on a fabriqués à l'atelier pour faire de la cuisine au feu de bois sur des événements comme ça peut être pour le CARNA ou quoi. Et donc ça m'occupe pas mal. Et puis c'est vrai qu'avec une bonne équipe d'anciens du CARNA et de l'INSA aussi, on a monté un projet où on a acheté ensemble en association un vieux corps de ferme avec trois bâtiments qu'on est en train de rénover. Et donc là c'est un peu dans le rythme des chantiers participatifs, etc. Et à terme l'idée c'est que ça soit un lieu pour faire des résidences artistiques, pour faire des événements, des choses comme ça.
Et moi, c'est Capucine. J'ai un peu plus le même profil que Nord. Je suis à l'INSA. J'ai 20 ans. Mon pronom, c'est elle. Et j'ai aussi découvert le bénévolat et l'engagement associatif en arrivant à l'INSA, surtout dans des projets culturels et artistiques.
Trop cool. Et t'es arrivée à l'INSA, au CARNA quand ?
J'ai découvert le CARNA en étant bénévole dessus il y a 3 ans maintenant. Lors de ma première année à l'INSA.
Ok. Et toi, Nord, ça fait combien d'années ?
Pareil, en arrivant il y a 4 ans.
Et toi, Pistache, comment ça se fait que, après tant d'années en ayant quitté l'INSA, tu reviens quand même et pas régulièrement ?
En fait, tous les ans, il y a un rendez-vous avec pas mal de copains qui viennent, une tireuse, des frites. Oui, on vient. Jusqu'au jour où les copains viendront plus, mais pour l'instant, ils viennent encore, quoi. Donc.
Et même si vous êtes tous à des niveaux d'engagement et d'années d'engagement en tout cas hyper différents, qu'est-ce que ça vous fait de voir qu'au Carnat il y a une énorme transmission et il y a beaucoup d'évolution? Justement, il y a des gens qui sont de plein d'âges différents, même aujourd'hui il y a plein d'enfants. De voir que c'est un festival étudiant, mais qui n'est pas que étudiant quand même.
Bah, pour moi, ça montre que c'est pas. Ça dure, c'est pas juste un amusement étudiant d'une ou deux années. C'est construit autour de valeurs et de convictions politiques et qui se transmettent et qui, je pense, font rester les gens. Évidemment, on est probablement de moins en moins investis, mais on est une sorte de grande famille. Je pense que ça reste longtemps. Enfin, en tout cas, moi, plus j'avance et plus je me dis que ça va me marquer et ça va durer quand même encore un moment.
Moi, pour moi, l'organisation du Carnat, c'est vraiment un truc qui m'a marqué dans le côté, on fait des trucs, mais ça pèse à... Enfin, bien sûr qu'on se met des grosses chasses de travail à des moments et qu'on peut finir fatigué ou quoi, mais il y a vraiment un soin à ce que les gens se sentent bien et globalement un truc un peu du jeu, quoi, en permanence, quoi, et on fait des trucs, mais en se marrant. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a inspiré après dans les organisations que j'ai voulu... structuré, etc. Et c'est vrai que c'est assez rare de voir comme ça un festival où l'équipe se renouvelle tous les ans. Il y a une passation qui est un effort de passation qui est très fort et du coup qui fait que les choses ne se perdent pas trop dans le temps. Alors il y en a qui repartent, qui reviennent, c'est normal, il y a de la perte en ligne des fois, mais et en fait, enfin, j'ai pas retrouvé trop ça dans d'autres organisations de festivals où justement il peut y avoir souvent un peu les mêmes qui restent, qui finissent par se fatiguer, qui deviennent un peu indispensables aussi parce que du coup, et qui finissent par porter un peu le truc. Et voilà, moi je suis vachement inspiré par ce truc du Carnat pour essayer de recréer ça aussi dans d'autres structures. Et pour autant, au Carnat ça marche aussi parce que il y a beaucoup de monde et des nouvelles personnes qui débarquent un peu régulièrement et une dynamique qui est chouette pour ça. C'est vrai que les années où il y a eu un peu moins de dynamique, ça a fait tout de suite un peu bizarre. Et pour autant, l'avantage, c'est que comme il y a des anciens qui reviennent, c'est un peu des années où nous, les anciens, on s'est dit aussi, vas-y, on fait un peu l'effort de venir un peu plus au Carnat parce qu'on sent que ça manque un peu de force vive et que voilà, ça fait plaisir d'aider à ce que la machine elle continue de tourner, quoi.
Et justement, tu dis que dans ces milieux collectifs-là, que ce soit au Carnat ou ailleurs, il y a ces personnes qui peuvent parfois être un peu irremplaçables et qu'ici, il y a un vrai effort d'évolution. Et du coup, si on est un peu... Voilà, ça évolue beaucoup, comment on peut arriver à quand même trouver sa place et se dire, je ne suis pas une personne parmi toutes les autres, moi aussi, je peux apporter quelque chose, même si je ne serais pas irremplaçable.
C'est hyper difficile.
De trouver sa place ?
Ouais, je trouve. Et en discutant avec plusieurs personnes, je trouve que c'est difficile de tous les côtés. En fait, quand t'arrives, t'as l'impression de pas avoir de légitimité parce que tu t'y connais moins que les personnes autour de toi. Et aussi, quand tu deviens plus vieilleux, t'as pas envie de prendre la place des nouvelles personnes qui arrivent et qui reprennent tes rôles d'avant, en fait. Du coup, je sais pas, moi je compense en essayant de juste concentrer mon sentiment d'être à la place, en mode fier de ce qu'on construit, de réussir à être le plus horizontal possible et à se sentir partie d'un tout, quoi. Mais c'est sûr que c'est un vrai truc auquel on doit faire attention, que tout le monde trouve sa place.
Toi, tu t'appuies du coup sur le côté hyper collectif pour pas te dire je suis que quelqu'un parmi tant d'autres.
Ouais, tu dis ensemble on a créé ça et je sais pas, et c'est important que personne soit irremplaçable.
Ouais, moi je me questionne aussi pas mal sur quel investissement je dois avoir, parce que j'ai eu beaucoup ce sentiment d'avoir l'impression de pas faire assez et du coup d'être un peu inutile et de juste profiter du système carnavaleux. Et à l'inverse, par exemple cette année, peut-être que j'ai un peu trop forcé sur les différentes responsabilités que j'ai prises à l'INSA, et j'en suis ravie et c'est vraiment beaucoup de plaisir, mais y a des moments où c'était un peu trop pour moi et où je sentais que trop de choses reposaient sur moi. Et je trouve que c'est hyper dur de trouver le juste équilibre. Mais c'est vrai que pour moi, la réponse actuelle, c'est vraiment de se tourner vers le collectif et dans tous les cas, de faire les choses ensemble avec d'autres gens et de jamais être seul à porter des responsabilités.
Vous aviez quoi comme responsabilité cette année, tous les deux Toi, tu étais en bénévole, du coup Enfin, tu gestion des bénévoles, c'est ça?
Ouais, j'ai fait les conférences et les bénévoles.
Ah oui, ok, les conférences aussi.
Moi, je suis Resp Elec et j'étais Resp Marmite. Voilà, je le mets au passé maintenant que la marmite est passée.
Ah, ouais.
La marmite, c'était la scène ouverte que
t'as
organisée.
C'était super. J'ai vu des spectacles vraiment cool.
Ah, trop bien. Ça fait vraiment plaisir.
Et donc vous voyez plutôt l'idée, de, en tout cas dans cet événement-là, c'est tout un collectif rempli de plein d'individus et pas plein de personnes individuelles qui se sont réunies ensemble pour créer quelque chose.
Ouais, puis c'est une culture commune en fait. C'est des trucs qui se reproduisent d'année en année, qui sont relativement similaires à chaque fois. Et ben là, par exemple, il y a quelques temps, j'ai des copains qui avaient fabriqué un jeu de cartes à l'effigie du Carnat avec des trucs. Et en fait, si on vous le passe, ça fait quelques années qu'ils l'ont fait, mais tu retrouves les mêmes trucs un peu de culture en fait qui se passent d'année en année. Comment ça fonctionne, des petites blagues ensemble de tel ou tel truc. Et du coup, il y a une vraie transmission de ça aussi, quoi. La transmission, elle passe pas que par des documents, des archives, etc., mais aussi par un esprit qui perdure, en fait.
Et c'est des trucs que vous observez dans d'autres milieux ?
Par exemple, la marmite, on parlait de la soirée marmite. Moi, je suis arrivé mercredi soir, j'étais là, bah ouais, c'est comme d'hab, et c'est comme à la maison, et c'est super, quoi.
Et en même temps, j'espère, dis-moi ce que t'en as pensé, mais en même temps, j'ai l'impression que la force du carnaval aussi, c'est qu'il y a une remise en question permanente, et qu'on essaye d'évoluer, de partout.
De faire mieux.
De faire mieux, ou de faire différent. Aussi avec les temps qui changent.
Mais comment on rentre pas dans un truc de on fait comme ça parce qu'on a toujours fait comme ça, en étant presque un peu fermé au côté nouveau. Comment on arrive à lier ce côté, il y a toute une culture, il y a tout un passé sur lequel s'appuyer, et en même temps le monde évolue, les gens sont de nouvelle eau.
Bah il y a aussi plein de changements et c'est trop chouette aussi, quoi. Enfin, ça, on voit que les gens ont évolué, qu'il y a aussi des nouvelles générations qui sont un peu différentes et qui apportent leurs pattes, et c'est trop chouette aussi, quoi.
Et ailleurs, en dehors du Carnat, dans vos autres milieux militants, ou toi dans tes collectifs ou au théâtre, vous trouvez que justement ce qui peut pêcher, ça peut être un manque de culture commune ?
Moi, je vais répondre pour mes engagements au théâtre. Parce que je pense que justement c'est aussi quelque chose qui me plaît au théâtre, c'est vraiment cette idée de collectif et de culture commune qu'on crée au fur et à mesure. Après, elle est très différente parce que déjà c'est souvent une troupe, elle est assez fixe sur les gens qu'il y a, et moi jusqu'à maintenant j'ai été dans des troupes une ou deux années, donc il y a un changement de groupe un peu tous les ans qui est très différent. Mais en tout cas, et c'est marrant parce que je m'en rends compte en te le disant là, mais je pense que je crois vraiment énormément en cette construction collective, parce que construire une pièce de théâtre et construire un Carnat, en vrai, c'est un peu... Ça part d'une même idée de faire quelque chose ensemble. Et moi, ce qui me passionne, c'est que ce soit tourné autour de l'art, de la culture et de convictions politiques.
Moi, je suis d'accord avec ce que tu as dit. Je pense que le fort du Carnat, c'est de faire la fête et aussi d'avoir beaucoup de moments de jouer aux cartes, manger ensemble, etc. Ce qui fait que tu te lies avec les gens et que tu as envie de revenir. Et en fait, il y a plein de choses qui se passent en dehors des temps de réu. Et je sais que ça peut manquer dans d'autres assos, mais en fait c'est aussi parce que le Carnac typiquement a le privilège d'avoir un grand local avec plein de canapes et une cuisine, et il y a plein d'assos et de collectifs qui n'ont pas cette chance là et c'est hyper dur de reproduire ça sinon. Mais l'objectif, c'est de passer un max de temps avec les gens pour pour que ça devienne un groupe qui fait des trucs ensemble. Bref.
Justement, pour ça, les réunions hebdomadaires, le fait qu'il y ait un rendez-vous comme ça toutes les semaines, où en fait tu sais que même si tout le monde n'y va pas forcément, il y a forcément un truc qui se passe, et puis on mange ensemble, et puis voilà. C'est vrai que ça crée un esprit collectif qui est chouette, quoi. Et oui, dans d'autres festivals, moi je pense à un festival qui est organisé sur le lieu où j'ai mon atelier. C'est un peu plus porté par quelques personnes qui réfléchissent le truc, coordonnent un petit peu. De temps en temps, font faire des soirées bénévoles pour qu'il y ait des gens qui s'intéressent un petit peu au truc. Mais c'est vrai que de ce fait, les bénévoles qui participent sont plus à venir donner des coups de main un petit peu et prennent pas forcément de charge mentale en amont sur l'organisation, etc. Donc finalement, c'est des organisations qui pèsent sur quelques personnes qui vont avoir un petit peu toutes les clés après pendant l'événement, etc. Et c'est vrai que, typiquement, moi j'ai un petit peu pris de la distance avec l'organisation de cet événement-là parce que, en fait, ça me convenait pas comme organisation, quoi.
Et là, tu parles de situation, du coup, il y a des personnes qui portent beaucoup. Comment on arrive, surtout dans des événements qui sont quand même. Enfin, le Carnat, c'est assez ambitieux. Les autres engagements que vous avez ailleurs, c'est des engagements qui sont hyper chronophages. Comment on arrive à pas se cramer, quoi, à se dire, ok, ce que je fais, c'est hyper important pour moi et pour le collectif et pour la société, mais en même temps, j'ai aussi besoin de dormir et de prendre soin de moi et des gens autour de moi. Vous pouvez dire que vous n'y arrivez pas.
C'est exactement ce que j'allais dire. Ah non, c'est pas évident. Hein.
Ouais, c'est compliqué.
Recontacte le chien, mais podcast des réponses.
C'est pas grave. Ce qui est difficile, c'est plutôt de l'assumer aux autres ou de se l'assumer à soi-même, de se dire là j'ai besoin de repos.
Moi, je me fais souvent un peu dépasser par mon agenda où j'ai programmé plein de trucs et après, je me rends compte que logistiquement parlant, les trucs qui s'enchaînent tous, en fait, ça va être un peu la course, quoi. J'ai un peu l'impression de... Chaque fois qu'il y a un nouveau truc qui se termine, ok, là, c'était un gros moment de rush, mais en fait, derrière, il y a encore d'autres trucs et puis, en fait...
C'est une boucle infinie.
Ouais. Le petit hamster dans sa roue... Mais je pense que j'ai un petit FOMO qui fait un truc de... Ouais, j'ai un peu toujours envie de tout faire et j'ai tendance à m'éparpiller un peu sur plein de trucs différents, donc ça n'aide pas.
Ben, vraiment, à peu près pareil. Mais justement, je crois que... J'ai souvent eu tendance à croire que, justement, il fallait que je me pose plus et que je me repose et tout ça. Et bon, globalement, là, avec mes 4 heures de dodo, oui, on est d'accord, il faudrait que je me repose.
Parce que pour le contexte, là, on est quand même au dernier jour du festival. Voilà. Personne n'a dormi vraiment cette nuit.
Mais en fait, je me rends compte que probablement que je vais vivre ma vie tout le temps comme ça. Bon, peut-être qu'un jour, je me calmerai un peu, mais en fait, c'est comme ça que j'aime vivre et que c'est comme ça que ouais, la vie me passionne et m'anime. Et bon, voilà, des fois il faut se prendre. Moi j'essaye de me caler des fois une soirée comme ça où je ne fais rien, mais en fait pour mieux repartir le lendemain et juste tous les
Même
projets que
repos,
je fais.
Même ton repos il est hyper utilisé pour.
Ouais, c'est ça. Mais tous les projets que je fais me plaisent et je crois que en fait je voudrais pas faire autrement. Enfin, il y a des moments où je me dis ouais, bon là c'est dur, je me suis peut-être mis trop de trucs et en même temps, si je regarde en arrière, je me dis ouais, j'aurais fait exactement la même chose si je revenais. Donc. Moi, j'accepte un peu juste que je suis comme ça, surtout pendant mes études supérieures, je pense qu'il y a aussi ça, je me dis que là, j'ai accès à plein de choses et que j'ai envie de les utiliser. Et puis bon, si un jour ça me fatigue trop, bah, je pense que naturellement, je me calmerai.
Bon, en vrai, je suis partie en échange académique au dernier semestre en Slovénie, c'était trop bien. Et du coup, je me suis retrouvée dans un milieu où il n'y avait pas du tout d'assaut que je pouvais faire ou d'engagement militant. Je ne parlais pas la langue du pays et tout. Du coup, ça m'a fait une pause forcée, en fait, de 6 mois. Et ça m'a fait énormément de bien. Et je pense que je ne me rendais pas du tout compte parce que comme ça nous apporte de la joie et de la satisfaction, l'engagement militant, et clairement, on a aussi l'urgence, en fait, du fascisme. Donc, on a envie de faire des trucs.
Puis il y a tellement de choses à faire aussi. Il y a tellement d'espace où on peut aller que c'est dur de choisir.
C'est clair. Du coup, je pense que juste avoir des grosses pauses forcées, ce sera mon futur plan.
Et ça t'a fait du bien, mais est-ce que tu t'es sentie du coup aussi hyper impuissante et immobilisée ou t'avais vraiment besoin de pause?
Non, en vrai, j'avais besoin de pause.
Six
bah,
mois,
je savais aussi que j'allais revenir. 6 mois,
ça passe
quoi.
Vite, ouais.
Ouais,
surtout quand tu sais qu'il y a une fin.
C'est ça.
Et au retour, t'es repartie de plus belle ou au contraire, t'as...
Ouais, je suis repartie direct. Je suis arrivée de mon train.
Aucun apprentissage.
J'ai été un normal de sup du train. C'était super.
Et puis mine de rien, c'est pas évident de construire ces réseaux aussi. Je trouve que ça, c'est une des grosses forces du Carnat, c'est que après, tu rencontres plein de gens et c'est un réseau qui perdure après et qui... Voilà, qui structure, moi, aujourd'hui, vachement, mes rapports sociaux, etc. Mais... comme toi, hein, j'étais parti en Erasmus en Autriche. À un moment, je suis rentré pour le Carnat. Je suis passé direct direction le Balfolk, sans passer par la case quoi que ce soit. Quoi. J'arrive avec mon sac à dos.
Ouais, c'est
on
clair.
Est là, quoi.
Et attendez, pardon. Moi aussi, j'ai très peu dormi. Je me suis perdue toute seule. Oui, c'est des espaces qui vous donnent beaucoup de joie, justement, parce qu'on est dans des lieux culturels. Pourquoi c'est important pour vous, en tout cas dans cet événement-là, parce que vous faites aussi des choses ailleurs, que l'engagement, il passe par la culture. Même quand... Parce que toi, par exemple, Nord, t'as des engagements qui sont pas que culturels, mais ouais. La culture s'immisce toujours. Qu'est-ce que ça apporte?
En fait, ça me tient tellement à cœur, parce que j'ai l'impression que... Le principal problème qui fait qu'on n'arrive pas à détruire notre système, c'est que les gens ne pensent pas que c'est possible et qu'il y a une alternative qui est complètement possible, qu'on peut juste choisir et exercer notre libre arbitre. Et je trouve que du coup, c'est trop important de montrer aux gens que c'est possible en construisant une alternative qui fait envie. Et du coup, attirer les gens justement aux façons de fonctionner différentes par la culture, qui est aussi une façon de se rappeler qu'on est libre de faire ce qu'on veut et d'imaginer plein d'autres possibles. Et je pense que c'est vraiment un maillon essentiel. Et c'est pour ça que, même si je ne pratique pas l'art, je finis toujours par organiser de l'art.
Mais, voilà. Mais en même temps, il faut beaucoup de gens pour l'organiser, pour qu'on puisse le pratiquer aussi. Hein.
Ah, moi, je suis vraiment hyper d'accord avec ce que tu as dit. Et moi, bah, justement, je le pratique. Et c'est vraiment...
Tu pratiques l'art avec un
je
grand L.
Je pratique l'art. Non, mais voilà, je fais du théâtre, de la photographie argentique. Et enfin, c'est... vraiment ce qui donne du sens à ma vie, enfin, c'est vraiment ce que j'ai envie de mettre au centre. Et justement, je pense que j'aurais du mal à aller dans des associations politiques ou qui sont disons plus en face à face,
ouais, dans la confrontation, tu veux dire?
Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, des fois, je m'en veux un peu de pas, disons, avoir des convictions politiques assez fortes pour aller jusque-là. Mais c'est là où je me sens hyper bien au Carnat et que je trouve le Carnat très puissant. C'est que, en fait, pour moi, on a une proposition politique qui passe par l'action, enfin, par voilà, monter un festoche et montrer « Oh, regardez, il y a une autre façon de vivre qui est possible en communauté ». Bon, bien sûr que ça s'applique sur une semaine. C'est...
Tu voudrais pas dormir sous un chapiteau toute ta vie?
À réfléchir, pourquoi pas. Mais en fait, pour moi, c'est de faire passer des idées par du bonheur et pas par de la rage. Et en même temps, il en faut. Mais... Et en plus, au Carnat, des fois, on a la rage, vraiment. Mais j'ai l'impression que ce qui reste, c'est quand même le bonheur d'être ensemble et le bonheur de faire des choses ensemble.
Oui, ben c'est sûr que trouver des moyens de faire autrement et montrer que c'est possible, ça fait partie aussi des moyens de lutter, quoi. Et je sais plus, j'avais un copain qui en parlait dans une conférence lesticulée justement de ce tabouret à trois pieds qui repose un peu sur trois piliers. Et en effet, le rapport de force, c'en était un, d'être dans la confrontation, parce que ça, il faut aussi passer par là pour. Mais le fait de trouver des futurs convenables aussi et d'explorer des possibilités, et ça en fait partie aussi. Et en fait, En fait, c'est OK. Il faut se dire que des fois, on peut pas tout faire et qu'on se lance dans un truc. Et que, heureusement, il y a d'autres gens qui sont chauds. Puis on n'est pas forcément fait pour tout porter aussi, quoi. Donc,
oui, c'est ça, ça on aussi, est tous différents. Et c'est pour ça que c'est cool qu'il y ait plein de propositions différentes où chacun peut se retrouver où il le veut.
Et j'ai oublié ce que c'était le troisième pied à l'instant. Mais...
en plus, ce qui est chouette ici, moi, c'est mon premier carnat où je passe vraiment plus longtemps. L'année dernière, j'avais dû faire beaucoup d'allers-retours avec ma ville de vie. Et en fait, on voit qu'il y a une vraie vie et qu'il y a des... Il y a une vraie circulation entre les personnes, en fait. Il y a ce chapiteau qui est au milieu d'un campus, avec des gens qui dorment et qui vivent pendant 6 jours, mais il y a des gens qui viennent manger le midi, il y a des gens qui viennent faire la sieste, puis après qui repartent et qui vont en cours, et puis qui vont ailleurs. Et puis là, on est samedi, il y a des enfants qui sont là, qui gambadent, qui jonglent. Et il y a un vrai... on n'est pas du tout dans un truc d'entre-soi qu'on pourrait avoir ailleurs, où il faudrait connaître, même s'il y a forcément un peu ça, il y a une vraie ouverture vers l'extérieur quand même.
Et on est complètement quiché entre les bâtiments de cours.
Oui,
où il y a des étudiants qui vont en cours à 8h le matin jusqu'à 18h. Moi, j'ai un souvenir d'une ancienne édition où le repas du midi pour les bénévoles, c'était légumes à croquer avec plein de tartinades. Voilà, il y avait de la carotte, il y avait des machins, et puis t'avais... Et je me souviens de m'être enfilé une quantité pas possible de légumes et de regarder en haut les fenêtres et me dire « Ah, en ce moment, il y a des étudiants qui sont en cours. » Bref, un souvenir marquant.
Mais en tout cas, pour moi, c'est hyper important, cette idée de non-entre-soi. Bon, notamment parce que, voilà, pour moi, je crois vraiment en l'art populaire. Enfin, c'est comme ça qu'on peut réussir, je pense, à détruire des systèmes et à réfléchir tous ensemble. Et ouais, ça me fait vraiment trop plaisir quand juste les soirs, pendant les concerts ou même la marmite, peu importe, mais juste il y a plein de gens que je ne connais pas. Et parce que sur l'INSA, globalement, dès que je fais 3 mètres, je croise quelqu'un. D'être dans une masse de gens inconnus, c'est vraiment un pur plaisir.
Et comment vous arrivez justement, là on a beaucoup aussi parlé du fait que ça devenait beaucoup plus difficile aussi d'y croire et que c'était de plus en plus utile, comment on arrive à trouver un équilibre entre il faut beaucoup beaucoup d'énergie et de ressources et en même temps pour un peu être pessimiste et se laisser aussi, ou se sentir un peu seul parce que ça reste une pensée assez, pas forcément marginale mais qui n'est pas dominante en tout cas.
Je pense que déjà on a l'immense privilège de ne pas être, enfin en tout cas personnellement, immédiatement en danger parce que c'est le cas de certaines personnes, du coup c'est facile de volontairement être dans le déni de temps en temps pour soulager quoi, c'est tout ce que je fais. Mais par contre, gros conseil à toutes les personnes qui se sentent mal, c'est agir, même si c'est un tout petit peu, ça change vraiment tout et c'est tellement empouvoirant, et faire juste un mini geste genre ça change vraiment la façon de vivre les choses.
Moi, je trouve que tu as tout dit.
En ce moment, je lis un super livre qui s'appelle Joie militante. C'est de la socio et du militantisme. Et qui théorise la joie dans le militantisme et dans l'engagement. Pas comme une idée juste de bonheur ou d'énergie un peu hyper optimiste et permanente. Mais dans l'idée que la joie, c'est la capacité qu'on a tous à se sentir... le pouvoir de faire de nouvelles choses avec d'autres et que c'est un processus de transformation et que c'est par là qu'on passe. Et j'ai commencé à lire ce livre il y a quelques semaines et j'ai pointé le bout de mon nez ici et mercredi, j'ai dit « Ah, c'est exactement ça !» C'est que... en plus, à mon arrivée, moi, je me suis dit oh, « Là, en ce moment, je suis vraiment très pessimiste et très pas en forme. Est-ce que ça va pas encore plus me déprimer ?» Et en fait, il y a quelque chose d'assez magique, mais qui est, je pense, pas si magique que ça. Et c'est très... très logique. On se dit en fait peut-être que ça marche.
Ouais.
Et puis le fait est que dans les infos, dans les médias qu'on a, il y a beaucoup de négatifs qui passent. Et du coup, quand il y a des petites bulles comme ça, un esprit collectif, quelque chose de joyeux, en effet, c'est tout de suite, c'est tout de suite chouette, quoi.
Ouais, en tout cas, je sais pas si le carnat change les choses, mais le carnat me donne, et je pense donne à beaucoup de gens, de l'espoir. Et je trouve que c'est la première étape pour faire des choses.
Et du coup, tu penses que c'est en d'autant plus important parce que c'est fait par des jeunes et des étudiants et que c'est une forme de tremplin. Pourquoi c'est encore plus marquant que ce soit par des nouvelles générations ?
Oui, je pense que tu as raison, c'est une sorte de tremplin. Enfin, moi, en tout cas, ça me donne des idées pour le futur, pour la suite. Et en même temps, justement, c'est ce qu'on disait, il y a plein de générations qui sont encore là. Et voilà, j'aime bien l'idée que ce soit... qu'on soit pas trop communautaire et juste des jeunes entre 20 et 22 ans et qu'il y ait le plus de générations possible de représenter.
Et c'est quoi vos idées pour le futur alors justement parce que du coup vous êtes toutes les deux étudiantes à l'INSA, c'est ça?
C'est ça. Tu veux y aller?
Moi, dans 4 mois, j'ai un diplôme que je ne peux pas utiliser. Et je sais pas du tout où ma vie ira, mais voilà, du coup, j'ai rien à dire.
C'est un peu...
c'est pas grave. Ouais.
C'est un peu la plongée dans l'inconnu, quoi.
Ouais, c'est terrifiant.
T'as des envies quand même, des idées, des...
En fait, je déteste toute forme de travail. Du coup, là, j'ai pas d'idée.
Là, c'est un peu du travail qu'on
fait
quand même.
Tout ce que
aussi,
tu fais au Carnat, non, c'est vraiment du travail. Ouais. Hein.
Oui, toute forme de travail rémunéré. Non, c'est vrai. Je sais pas.
Moi, j'aimerais utiliser mon diplôme, mais en bifurquant un peu et en l'utilisant encore une fois, j'espère pour, enfin, dans le monde de la culture et de l'art. Voilà, moi, dans l'idée, j'aimerais faire de la direction technique et dans un sens. Peut-être que c'est un peu... Enfin, j'ai pas d'engagement direct en faisant ce choix. Mais en même temps, j'ai du mal à croire qu'on puisse... Enfin, c'est un grand débat sur est-ce qu'on peut changer les choses de l'intérieur et est-ce qu'il faut que je trouve un métier d'ingénieur qui réfléchit à des meilleures solutions dans tous les domaines, par exemple, écologiquement parlant. Voilà, j'ai du mal à y croire et au-delà de ça, voilà, moi ce qui fait sens c'est plus le monde artistique. Donc peut-être que j'espère pouvoir faire partie en tout cas de projets culturels qui eux auront un sens et auront une portée politique derrière.
Et toi, comment t'as réussi, Pistache, à bifurquer un peu mais en même temps
Moi, j'ai fait mon stage de fin d'études d'INSA avec une entreprise qui s'appelle Tiéol, qui est située à Valence et qui fait des formations d'autoconstruction d'éoliennes. Voilà, donc on se déplaçait chez les gens pour 5 jours, on fabriquait une éolienne sur place, etc. C'était l'occasion de chantiers où les gens apprenaient le travail du bois, le travail du métal, un peu l'électricité, etc. J'avais vu ce truc-là justement dans une vidéo en traînant un peu quand j'étais en Erasmus et en rentrant, il y avait Alternatiba qui organisait un grand événement sur les quais avec plein de stands, etc. Et j'ai vu qu'il y avait ces gars-là et du coup j'y suis allé avec l'idée de dire est-ce que vous prenez pas des stagiaires et tout. Et le gars qui gère ça était en mode « Ah bah ouais, grave, viens, pas de soucis. » Ça s'est fait un peu comme une lettre à la poste, quoi. Bon, depuis, ça a ouvert une brèche, parce que je suis allé dans un lieu qui s'appelle le Valence Atelier Libre. C'est là où était hébergée l'entreprise. Et en fait, derrière, il y a plusieurs carnavaleux qui sont venus aussi faire des stages, des services civiques dans le coin de ce truc-là. Et en gros, j'ai habité dans l'atelier pendant un moment, presque un an, quoi, parce qu'il y avait de quoi crêcher sur place, etc. Et vécu un peu dans ce truc-là. Et j'ai rencontré une copine à ce moment-là, Aurélie. Et puis après, j'ai essayé quand même un peu de bosser en tant qu'ingénieur. J'ai travaillé notamment sur de l'électronique embarquée et pas mal pour Alstom, donc pour faire des cartes électroniques, des capteurs qui sont embarqués sur les trains après. Mais en fait, assez vite, je sortais d'un an à avoir bricolé, bidouillé dans tous les sens dans un atelier où il y avait plein de possibles et aussi dans une ambiance très inclusive, hyper chouette, etc. Et en fait, me retrouver à être sur un ordinateur toute la journée et puis se dire, bon ben en même temps t'enrichis aussi des actionnaires, enfin voilà, j'avais envie de repartir à autre chose.
Possible,
et du coup à ce moment là j'en ai parlé à Aurélie, tiens ça te dirait pas, on lance notre atelier aussi dans le coin de Lyon. Dès le départ, on avait l'ambition de voilà, de pas faire que de l'éolien. C'était une des compétences qu'on avait tous les deux. Et du coup, on a commencé en organisant des stages et ça nous a permis un petit peu de faire rentrer des sous dans l'assaut. Mais assez vite, on a essayé de diversifier et de se former nous-mêmes sur d'autres techniques, d'autres technologies de fabrication, de produits, etc.
Et ça te donne justement de l'énergie et de l'espoir? Plus que quand t'étais en ingénierie où tu vois les limites plus.
Ah ben les limites elles sont présentes hein, c'est sûr hein. En termes de moyens on a pas beaucoup de moyens quoi. Mais ça me donne une certaine fierté en fait quand voilà tout ce qu'on propose dans les formations en fait on le diffuse sur notre site en open source. C'est une des trucs voilà, dès qu'on a de la documentation, dès qu'on a produit des choses en fait on les partage. Et régulièrement, voilà, je vais croiser quelqu'un qui me dit ah mais j'ai vu votre site, il est super. Et en fait, ça fait trop plaisir quoi, de se dire. Enfin, tu vois, nous, on fait ça aussi pour que ça se diffuse. Je rencontre aussi des gens qui vont me dire ah mais comment vous faites après pour gagner de l'argent, faudrait pas mettre des brevets ou je sais pas, tu vois. Enfin, dans la famille ou quoi, les gens sont un peu inquiets quoi. Mais en fait, ça fait trop plaisir d'avoir des retours de gens qui après. Voilà, on découvre ce qu'on a fait.
C'est plus intéressant que de gagner de l'argent.
Et en soi, je pense que de l'extérieur, ces groupes-là, notre asso, je sais qu'elle commence à avoir une petite notoriété aussi. Je pense aussi au réseau Tripalium, qui est le réseau qui regroupe un peu tous les gens qui construisent qui font des autoconstructions d'éoliennes comme ça. C'est des trucs qui, de l'extérieur, peuvent donner l'impression que c'est des bureaux, il y a des gens qui bossent de 8h à 18h, alors qu'en fait, c'est fait un peu de briques et de broc, c'est toujours un petit peu sur le fil, quoi. Nous, je sais que le budget de l'asso, chaque année, il y a des moments où on serre les fesses, où on se demande comment ça va passer, etc. C'est vrai que quand je bossais en tant qu'ingénieur, c'était plus confortable, quoi. Je me pointais au bureau, je rentrais chez moi, c'était terminé. Et j'avais pas besoin de trop me fouler non plus pour que ça se passe bien, quoi. Donc, ouais.
C'est plus dur de porter des choses par soi-même, hein.
Ah oui, bah ça c'est sûr. Bah, quand tu fais rien, ça n'avance pas, hein, de toute façon.
On arrive vers la fin de cet enregistrement. Et on a une petite tradition dans le tourbillon, c'est de demander à nos invités de partager une recommandation culturelle autour de la jeunesse, quelle qu'elle soit. Est-ce que vous avez trouvé quelque chose?
Moi, oui. J'en ai même deux. deux choses qui sont quand même liées à ma jeunesse mais qui justement pour moi c'est des éléments que j'apprécie toujours aujourd'hui et qu'on peut encore apprécier à 30 ou 40 ans je pense. Déjà j'aimerais conseiller la revue dessinée Topo, je sais pas si vous connaissez, c'est une revue d'actualité, je crois que c'est trimestriel, tout en bande dessinée, avec plein de sujets différents, assez précis et extrêmement bien expliqué, parce que justement, c'est normalement pour les moins de 20 ans, mais en fait, qui est totalement lisible à 30 ou 40. D'ailleurs, c'est le petit frère d'une revue qui s'appelle la revue dessinée, je crois. Voilà, donc je trouve que... Bah, encore une fois, c'est un peu... C'est à la fois pouvoir s'informer et avoir des informations précises tout en ayant une sensibilité artistique parce qu'il y a plein de dessinatrices qui proposent des choses. Et voilà, moi je trouve ça très agréable. Et sinon, pour finir, après je vous laisse la parole, une petite Madeleine de Proust, c'est les Miyazaki, voilà, qui sont pour moi hyper... qui déjà peuvent être vus à 10 comme à 30, comme à 80, peu importe. Et il y a plein de niveaux de lecture et c'est à la fois hyper beau juste esthétiquement et derrière il y a quand même des idées des propositions politiques, je trouve, qui
on voit sont d'autres très fortes. Choses possibles, justement, comme nous disait.
Voilà, c'est ça.
Moi, j'ai pas trouvé de recommandations culturelles jeunesse. Mais en vrai, il y a un truc que je fais un peu en ce moment, c'est d'essayer de plus me pencher sur l'histoire des mouvements avant nous. Et je trouve que c'est incroyable de réussir à se mettre à la place des personnes qui, en fait, auraient pu être nous, étaient nous, juste il y a des dizaines d'années, et de se rendre compte de toutes les luttes qu'il y avait eu et qui avaient fonctionné, et que ça fait plaisir et ça donne des outils pour construire aussi notre engagement. Du coup,
est-ce que tu connais le podcast « Et parfois on gagne » ?
J'écoute aucun podcast dans la vie.
Eh bah super. C'est un podcast entre une collaboration entre Arte Radio et l'INA, les archives.
Ah ok.
Et en fait, chaque épisode d'une demi-heure, c'est un petit reportage sur des luttes qui ont fonctionné.
C'est génial.
De ces 100 dernières années, il y a des trucs hyper variés et c'est trop bien.
Ça a l'air incroyable.
C'est génial. Ça fait énormément de bien.
Tu m'étonnes.
Et surtout sur des choses où il y en a certaines, ça raconte l'histoire, mais on le sait, il y en a, on ne découvre pas des Vélorussions dans des pays de l'Est dont on n'a jamais entendu parler. Enfin, c'est hyper varié et hyper chouette.
Trop bien.
Je t'ai fait ta recommandation.
Merci. Mmh.
En tout cas, moi, je prends. Ça a l'air très intéressant.
Et moi, j'y réfléchis depuis hier soir, du coup, puisque tu en as parlé...
À 3h du matin, à peu près.
J'ai pensé à deux trucs. Il y a une petite série sur Arte qui s'appelle « Ceux qui rougissent ». Vous l'avez vu, ouais, peut-être. Des jeunes qui montent « Le songe d'une nuit d'été » en cours de théâtre dans un gymnase du collège, quoi. Moi, ça me parle parce que j'ai joué dans Le Songe d'une nuit d'été à deux reprises, avec une fois à l'INSA, d'ailleurs. En jouant dedans. Donc voilà, ça m'émeut d'autant plus. Et une autre recommandation que j'avais, qui vient de sortir, là, ça aussi, c'est Petite Madeleine de Proust. C'est... un bouquin jeunesse que je lisais quand j'étais jeune. Ewilan, ça vous parle ou
Pas du tout.
Ewilan, la quête d'Ewilan.
Oui, et ben ça vient.
Il y a Elio qui a caché aussi.
Ça vient de sortir en série de dessins animés sur France Télé. La première saison est incroyable. Et c'est pareil, ça peut se regarder à tous les âges, à vrai dire.
Super Nord, elle a une liste de trucs à regarder maintenant.
Non, mais c'était mon livre préféré quand j'étais petite. Mais je l'ai relu et j'étais en mode en vrai c'est incroyable et tellement poétique et tellement cool, mais il y a quand même quelques éléments
c'est pour les jeunes quand même, quoi.
Voilà, quoi.
Oui. Enfin, on a un peu grandi, mais t'as vu la série ou
pas encore, car il y avait le carnat après.
Ah oui, bah tu vas kiffer, hein.
Et ben écoute, à partir de lundi soir, mardi,
ouais.
Et ben merci à vous trois.
Merci à toi, merci à Elio.
Que vous êtes en forme pour terminer ce dernier jour de festival et entamer le démontage à partir de demain, car on a parlé de toute la joie de créer tout ça, mais il faut le décréer aussi.
Ça commence dès ce soir, je crois,
ouais.
Le démontage. Hein.
La démonteuf.
À fond.
À fond.
Et ben merci beaucoup et merci au Carna et à Adrien de nous permettre de faire ces super trucs.
Vous venez d'écouter un épisode du Tourbillon, le podcast d'une jeunesse qui se lève. La réalisation est effectuée en binôme avec Elio, qui se charge également de la partie technique. Le graphisme est effectué par Emile et le développement web par Zadig. Nous remercions très fort tous nos amis qui, par leur soutien, nous donnent envie de réaliser chaque jour de nouveaux épisodes pour porter à vos oreilles de nouvelles voix, de nouvelles envies, de nouveaux possibles. À très vite pour un nouveau tourbillon.